HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty, en partenariat avec le groupe Synergie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast et également en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRDRadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
Bonjour Alain.
Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard.
Bonjour Alain.
Alors aujourd'hui on parle de transformation et d'analyse des données.
Exact.
Avec une experte.
Ah oui, c'est une grande experte, bon. J'appellerais plutôt même ça une DRH de combat, figurez-vous, parce que notre invité adore les challenges permettant de transformer l'organisation d'une entreprise. On reçoit effectivement aujourd'hui Karine Branger, DRH de GFK. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors, vous êtes née à Cayenne, vous avez toujours voulu travailler dans les RH, et après des études de psychologie du travail et des organisations qui vous amènent dans un cabinet conseil, en transformation RH directement, vous êtes dans le grand bain tout de suite.
Oui, effectivement, tout de suite. J'ai plongé assez rapidement, en fait, et après, on devient assez accro.
Et vous vouliez tout de suite faire ça, transformer ?
Oui, parce qu'en fait, par mon entourage familial et personnel, j'avais autour de moi des chefs d'entreprise et la problématique qu'ils rencontraient tous, c'était pas des problématiques d'achat de machines ou c'était des problèmes de recrutement, des problèmes RH, en fait. Et donc très vite, je me suis rendu compte que là, il y avait des trucs à faire.
Il y a toujours des trucs à faire.
Alors ensuite, vous créez la fonction RH au sein du groupe Grand Vision, Grand Optica, Général d'Optique, Solaris. Un vrai challenge là.
Oui, alors à l'époque, on a créé la centrale d'achat et la centrale logistique du groupe Grand Vision, GVIS. Et là, on a, avec l'appui d'un grand groupe, hein, mais on a tout créé de zéro. Ça va de mettre en place l'ensemble des processus RH. Voilà.
Comment ils faisaient avant ? Ils se débrouillaient comme ça entre amis ?
C'est... Non, c'est qu'il y avait bien des RH, mais chacun dans son entité juridique et légale. Ouais. Donc chaque enseigne était préservée, indépendante. Et là, le groupe, à cette époque-là, a choisi de faire un virage stratégique important. C'était... effectivement, c'était l'époque du cost-killing, où on regroupe un certain nombre de choses, et notamment les achats et la logistique. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, je suis intervenue pour créer GVIS et mettre en place avec l'équipe de l'époque toute la partie RH.
Richard.
Et alors, pendant 15 ans, vous allez enchaîner les combats, comme je le disais en intro, Lycos Europe, Funhouse, Melita, Groupe Renault, Expedia, Transcom, parce que vous adorez transformer, créer, mais gérer l'après, c'est pas trop votre truc, en fait.
Pendant longtemps, ça n'a pas été trop mon truc, effectivement, jusqu'à cette expérience chez GFK.
On va en parler.
Parce que, effectivement, quand on fait de la réorganisation, de la restructuration, que ce soit sur des phases de croissance ou des phases de décroissance, souvent, on est vu comme... effectivement, la personne qui vient remettre les choses en place, éventuellement le grand méchant qui met en place une politique qui n'est pas forcément tout le temps acceptée. Et puis, et donc pour un DRH, d'abord, c'est des périodes qui demandent beaucoup en énergie. Et en investissement. Et puis quelquefois, c'est plus simple, effectivement, de partir une fois qu'on a repositionné, réorganisé, restructuré. Ça, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Pour des raisons personnelles, après, j'ai fait un autre choix qui était, effectivement, toujours de continuer dans la transformation et l'accompagnement du changement, mais d'aller beaucoup plus loin et de recréer la motivation et l'engagement au sein des équipes qui restaient. Et donc, c'est ce que je fais chez GFK aujourd'hui.
Effectivement, vous arrivez chez GFK à la direction RH. Comment est-ce que vous pouvez définir ce groupe ?
GFK, c'est en tout cas en France, il y a plusieurs entités légales qui composent GFK en France, donc deux structures principales, une qui s'appelle RTF et l'autre qui s'appelle ISLCRF, une société qui, dans un premier temps, se porte plutôt bien, mais est colorée un peu ancienne mode. Je dirais que c'est structure de type paternaliste qui fonctionne un peu avec des réflexes passéistes. Une autre société qui, elle, et se trouve dans une situation financière beaucoup plus négative. Et donc un projet qui est d'abord de faire un One GFK, c'est-à-dire de faire travailler les gens ensemble, puisque jusque-là, ils collaboraient. Tout le monde vivait dans le même bâtiment, pour autant sans travailler ensemble.
Donc, une vraie synergie à créer, quoi.
Il y avait une vraie synergie à créer, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue RH, process, l'ensemble des choses. Et donc le contexte, c'est repenser l'ensemble de l'organisation, repenser les métiers, puisqu'on passe d'anciens métiers de recueil de la data, à de l'intelligence artificielle, de la digitalisation. Donc on a repensé l'ensemble de l'organisation de fond en comble. On est passé par de la transformation organisationnelle, structurelle, culturelle, des nouveaux métiers, deux plans sociaux menés simultanément en 2018 sur deux entités légales différentes. Donc un commençait le matin, l'autre l'après-midi.
Chaud quand même, intense.
Chaud. Donc autant vous dire que pendant 6 mois, j'ai pas eu de vie.
Et voilà. De la pression, et beaucoup de pression.
Et beaucoup de pression.
Combien de personnes aujourd'hui, Karine, en France et dans le monde ?
Alors, dans le monde aujourd'hui, c'est 10 000 personnes. D'accord. En France, c'est 200 personnes aujourd'hui, alors qu'il y a 4 ans et demi, c'était 450 permanents et 1600 vacataires. Oui. Donc, il y a tout un pan d'activité entier qu'on a arrêté.
Changer quoi ? Les actionnaires, vous êtes sous fond ?
Alors oui, on est sous fond avec KKR, c'est pas l'actionnaire majoritaire, notre actionnaire historique reste majoritaire, mais d'accord. Autant il y a un fonds qui est présent, oui.
Sophie Sanchez.
Alors afin de connaître un peu mieux votre activité, quels sont les métiers de votre entreprise ?
Alors nos métiers, ce sont les métiers historiques de la data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data, voilà, tout est data dans le monde. Nous, c'est notre métier depuis toujours, en fait. On va collecter la donnée et puis on la traite et puis on la fait parler, cette donnée. Donc, on lui donne un sens. Et donc, c'est les métiers qui sont les nôtres, en tout cas, le grand fil. Ça va du métier donc, que nous, on appelle les opérations. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher la data, la traiter et la mettre en forme correctement pour pouvoir l'analyser. Alors, avec différents systèmes qui sont les nôtres, hein, c'est nos algorithmes, c'est notre façon de gérer la data. Et puis ensuite, de lui donner du sens et de l'interpréter. Donc après, il peut y avoir des chargés d'études, des directeurs d'études, enfin voilà, tous les métiers du traitement de la data, du traitement brut à donner du sens et apporter du sens aux clients, ce sont les métiers qu'on peut faire. Voilà.
Donc des métiers qu'on occupe avec un niveau de formation à peu près bac plus 5.
Ah oui, aujourd'hui, ouais. Et notamment depuis les 3 dernières années, on va chercher effectivement que des master 2, alors beaucoup de jeunes diplômés sortis d'école et effectivement on a besoin de cette matière grise de plus en plus. Oui.
Et vous les gardez, c'est-à-dire qu'il y a un turnover qui est important chez vous ?
Alors il y a un turnover qui est important au bout de 2 ans parce qu'en fait on est une super école. Nos profils généralement s'en vont chez nos clients.
Ouais, pour beaucoup. On vous les pique, quoi.
C'est ça.
Donc, avec le sourire, mais ils partent quand même, quoi.
Voilà. Ouais. Mais donc, on est aussi contents qu'ils partent. Hein.
ça fait partie. C'est une bonne pub, quoi, les alumni.
Ça fait partie du jeu.
Vous les animez d'ailleurs, les anciens, ou pas ?
Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'accord. Mais oui, on va chercher des master 2 sortis d'école, généralement école de commerce. On est en cible de recrutement sur le top 10.
Sophie ?
Alors, parlons du contexte actuel sanitaire et économique. Est-ce que ces crises ont eu un impact sur votre business ?
Alors, oui, notamment sur la partie ad hoc, puisqu'on a une partie panel et une partie ad hoc. Sur la partie panel, le business model fait qu'on est sur un système d'abonnement, en tout cas de contrat long, donc pas vraiment d'impact, si ce n'est sur la collecte de la data, donc, voilà. Mais pas impact business chiffre d'affaires. En revanche, sur la partie ad hoc, oui, parce que là, le COVID, la phase Covid a fait que bon, on avait des choses dans le pipeline, c'est-à-dire que jusqu'en mai, tout s'est bien passé à peu près, tout le monde était occupé, voilà. Et puis à partir de mai, on a été obligé de mettre des salariés en chômage technique. Ouais.
Alors vous avez tenu jusqu'à mai.
On a tenu jusqu'à mai, donc c'était déjà pas mal. Et puis là, les choses reprennent petit à petit, donc on sort du chômage partiel. Petit à petit, en fait. Donc après, le vrai virage sera septembre, hein, savoir comment ça va se passer.
Ouais, bien sûr. Ouais. Quelles ont été les premières actions que vous avez mises en place dans ce contexte bien particulier en qualité de DRH ?
Alors, pour nous, ça a été relativement simple et smooth, pour une simple et bonne raison, c'est que j'étais une grande adepte du télétravail.
Naturellement, donc.
Ouais. Déjà, oui, parce que pour moi, ça fait partie des formes modernes de travail qui nous sont demandées d'ailleurs par nos jeunes générations, clairement. C'est une vraie demande des collaborateurs. Et donc, nous avions mis en place un accord de télétravail qui permettait 2 jours de télétravail pour tout le monde. Mmh. Et on avait mis ça en place au 1er février.
Donc, ça tombait bien.
Ça tombait bien. Donc déjà, on avait fait un test avec les grèves sur les retraites au mois de décembre. Et on avait vu que tout fonctionnait bien, tout le monde était équipé de laptop, nos systèmes...
ça communiquait bien, c'était...
Tout, sans aucun problème, VPN, on était tout prêt. Et donc on a été, nous... En fait, j'ai déclaré tout le monde en télétravail avant qu'on nous demande de l'être.
Mmh. Ouais. Donc, merci les Gilets jaunes pour l'effet d'expérience. Quoi.
Voilà. Donc, dès le début, on demandait aux salariés de partir tous les soirs avec leur laptop. Et puis, j'ai envoyé un email le jeudi soir en disant à tout le monde, si vous voulez rester à la maison, restez chez vous. Et puis, donc, pour nous, ça s'est très, très bien passé. On n'a pas eu de crise technique liée à ça. Et c'était, on a plus eu à gérer l'animation en 100% télétravail pendant 3 mois plutôt que...
Oui, parce que là, ça a été quand même du télétravail forcé pendant 2 mois et demi. Donc, est-ce que vous avez déjà tiré des enseignements sur ce qui a été vécu par vos équipes par rapport à ce que vous faites naturellement?
Alors... Les principaux enseignements, ça a été des confirmations par rapport à ce que je pressentais moi. C'était la capacité à animer à distance, et notamment vis-à-vis du management. Comme on était déjà parti sur le télétravail, on avait déjà formé aussi des managers à travailler sur l'autonomisation des collaborateurs et non plus sur la surveillance physique, enfin ce genre de choses. C'est penser le travail différemment, l'organiser différemment, fonctionner par objectif. Et puis rendre les gens beaucoup plus autonomes sur leur poste de travail. Donc ça a plus été cette confirmation là et la nécessité de d'une animation qui prend d'autres formes en fait, surtout quand on passe à 100% télétravail.
Oui, bien sûr.
Parce que nous en plus on anime beaucoup nos équipes, au quotidien on a des cours de yoga au bureau, on a une salle de convivialité, un baby foot, une borne arcade, enfin voilà, donc il y avait des moments de convivialité qui font la cohésion des équipes qui là d'un seul coup disparaissent. Et donc on a fait des choses comme on a des collaborateurs qui sont musiciens, donc ils ont fait
des petits concerts,
des concerts, on a fait café concert, on a fait du yoga, notre prof de yoga a fait
à distance, quoi.
À distance. Ouais. Donc son chat est devenu la mascotte parce que du coup
elle a mis son chat au yoga
et puis surtout dans son appartement, donc on voyait son chat aussi, donc voilà. Donc ça crée une certaine forme de convivialité. On a fait des concours musicaux, enfin on a fait des choses comme ça qui changent un petit peu et qui permettent aussi d'évacuer un peu le stress.
D'apporter un peu d'humanité aussi à cette
On a demandé
situation.
Aux managers de faire des cafés virtuels avec leurs équipes, de brancher les caméras.
Et tout le monde a joué le jeu. C'était un peu une soupape pour tout le monde de communiquer aussi au moins à distance.
Oui, c'était... Mais après, c'est les équipes, petit à petit, s'approprient les choses à partir du moment où aussi on leur laisse une marge de liberté et d'action pour pouvoir faire des choses. En fait, ça se met en place de façon assez fluide si on est ouvert à ça.
Alors vous disiez GFK est un groupe international, est-ce que la crise a été gérée de la même façon au sein de vos implantations à l'étranger par rapport à ce que vous avez fait en France?
Nous on avait ce qu'on a appelé un business continuity team. Donc, on se parlait beaucoup. On fait partie d'une région, l'Italie, et dans la même région. Donc, ils ont commencé d'abord avec le Covid. Ouais. Donc, on a suivi très fortement ce qui s'est passé. Il y a eu même l'Asie avant. Et donc, on a profité de tous les constats et les
effets d'expérience.
Et les expériences des uns et des autres. Donc, oui, on a collaboré très fortement entre nous.
Et de façon générale, est-ce que vous considérez que votre métier de DRH a changé par rapport à ce contexte particulier qu'on traverse?
Objectivement, par rapport à la façon dont je le pratique, je crois pas, non.
Non.
Donc c'est juste, moi j'étais déjà une adepte du télétravail, on avait déjà pensé un certain nombre de choses, anticipé un certain nombre de choses, mis en place des formations pour accompagner les managers, enfin voilà. Donc est-ce que ça change fondamentalement les choses? Je reste convaincue que 2 jours de télétravail, c'est bien.
2 jours, c'est bien. Au-delà, ça, on perd un peu le fil.
Au-delà, on perd le fil. Et puis, on perd surtout l'engagement, la motivation, la cohésion d'équipe. Hein. Oui. C'est là où ça...
Il faut se voir, il faut du présentiel.
Exactement.
Côté voyage, il paraît que vous avez un petit coup de cœur pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ah oui.
Racontez-nous alors. Vous êtes partie pour ressourcer.
Zénith. Alors, je suis déjà partie et j'y retourne. Donc, j'avais déjà fait Rocamadour, Villeneuve-sur-Lot. Et là, je m'apprête à faire... le Puy-en-Velay à l'Est, donc
combien de temps
le chemin de Stevenson, donc là c'est 15 jours.
15 jours quoi.
15 jours avec mon sac à dos.
Et vous aurez le temps de faire un peu de collage ou pas pendant ces 15 jours?
Non, je ne vais pas avoir le temps de faire du collage, mais je vais...
Vous adorez le collage, non?
Au mois d'août, oui, je suis aussi artiste, donc, oui. Effectivement, je colle, je crée généralement au service du féminin, puisque la cause féminine est une importante cause importante.
Et vos prochaines expos, les dernières expos, c'était quoi?
Alors la dernière, c'était le 8 mars dernier à la Galerie Arcade, enfin toute la semaine, c'était la journée de la femme, hein, le 8 mars, donc sur toute cette semaine j'ai exposé à la Galerie Arcade à Suresnes, et puis la prochaine expo, en tout cas ma prochaine installation, c'est pour le 25 novembre.
25 novembre, faut noter.
Chaque année, oui,
parce que... À Suresnes toujours?
Ah, je ne sais pas encore où, mais le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et donc j'expose chaque année à cette date-là, c'est une date importante.
Karine, pour rebondir sur vos propos, vous soutenez également Women Safe, un mot sur ce mouvement?
Oui, ça c'est une association Women Safe qui est chère à mon cœur, et notamment avec sa vice-présidente Frédérique Martz, dont l'objectif est d'accueillir et de défendre des femmes qui sont victimes de violences conjugales et domestiques, d'accueillir les femmes et leurs enfants.
Et on peut les soutenir, on peut donner des sous, on peut passer du temps?
Il faut surtout leur donner des sous, donc il suffit d'aller sur leur site internet.
Et Women, comment c'est créé ça?
Women Safe.
Très bien, merci beaucoup Karine, merci également à vous Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HRDradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur notre compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de HRDradio.tv, une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie.